monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 13 juin 2024. Frappe israélienne sur le sud de Gaza après la tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient. Le G7 adopte un pactole de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine sur les intérêts générés par les actifs russes gelés. Sur le continent au Niger, 6 soldats ont été tués dans l'attaque de l'oléoduc entre le Niger et le Bénin. Au Rwanda, remaniement ministériel et dans les renseignements à un mois de la présidentielle. Au Sénégal, le torchon brûle entre les journalistes et le pouvoir.
Qu'on essaye de faire en sorte que cet assainissement-là puisse se traduire en actes concrets. À partir de ce moment-là, nous allons nous rendre compte que nous avons une meilleure presse, une presse plus responsable. Et à partir de ce moment-là, même ces histoires de dépénalisation, des délais de presse, on n'en aura plus besoin.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit déterminé à faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza après 8 mois de guerre entre le Hamas et Israël. John Lydon.
Concluant à Doha une tournée dans 4 pays du Moyen-Orient, dont Israël, Blinken a affirmé que son pays travaillerait avec les autres pays médiateurs, dont le Qatar et l'Égypte, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Plus cela dure, plus les gens souffriront et il est temps de cesser les marchandages, a-t-il déclaré. Mardi, le Hamas a annoncé avoir remis au Qatar et à l'Égypte sa réponse au plan annoncé le 31 mai par le président Joe Biden. Le contenu de la réponse du Hamas n'a pas été révélé. Blinken a déclaré que certains changements réclamés par le Hamas étaient réalisables, d'autres pas. Mais le premier ministre Benjamin Netanyahou affirme qu'il poursuivra la guerre jusqu'à la défaite du Hamas. L'armée israélienne a pilonné ce jeudi la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, où les combats au sol font rage malgré cette tournée au Moyen-Orient du chef de la diplomatie américaine qui tente d'arracher un cessez-le-feu.
La décision de la Cour suprême des États-Unis de maintenir les conditions d'accès à une pilule abortive ne change rien au fait que la lutte pour le droit à l'avortement continue, a affirmé ce jeudi le président démocrate Joe Biden dans leur arrêt unanime. Les 9 juges de la Cour, à majorité conservatrice, dénient l'intérêt à agir, condition pour saisir la justice des plaignants, des associations de médecins ou de praticiens hostiles à l'IVG qui ne prescrivent ni n'utilise cette pilule. L'ancien président Donald Trump a reçu un accueil chaleureux à son retour à Washington aujourd'hui pour rallier le soutien des parlementaires républicains après sa condamnation pénale à New York. Il a remercié les membres de la Chambre des représentants dans un club privé près du Capitole qui ont chanté joyeux anniversaire au milliardaire qui fête ses 78 ans demain vendredi. L'ancien président est au coude à coude avec son successeur Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. C'est sa première rencontre avec les législateurs du Congrès depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche en 2021 et son premier voyage à Washington depuis qu'il a été condamné le mois dernier à New York pour les 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux. Les dirigeants du G7 sont réunis à Borgo Egnazia en Italie. Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et leurs homologues ont été accueillis par la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky est parmi les invités, Nathalie Barge.
Selon un responsable de l'administration américaine, les futurs intérêts produits par les actifs russes gelés vont générer jusqu'à 3 milliards d'euros de revenus par an. Les présidents américains et ukrainiens, Joe Biden et Volodymyr Zelensky, doivent par ailleurs signer un accord bilatéral de sécurité. Hier soir, la présidence française a annoncé que les dirigeants du G7 ont trouvé un accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine via l'utilisation d'actifs russes gelés, précisant que ce décaissement interviendrait avant la fin de l'année. François, premier pape à participer à un sommet du G7, a été l'invité surprise de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Le pape doit prendre la parole vendredi lors d'une session sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont aussi levé le ton face aux velléités italiennes d'atténuer une déclaration soutenant le droit à l'avortement au premier jour du sommet. Les objections de la première première ministre d'extrême droite dont le pays préside le G7 aurait irrité ses partenaires.
Le parquet russe a annoncé aujourd'hui que le journaliste américain Ivan Gershkovich sera jugé prochainement à Ekaterinbourg dans l'Oural pour espionnage, l'accusant d'avoir collecté des informations sur une usine de chars pour le compte de la CIA. Ivan Gershkovich, journaliste au Wall Street Journal, a catégoriquement nié les accusations. La Maison-Blanche a qualifié ces allégations de ridicules et jugé la détention du journaliste comme étant totalement illégale. Le séisme provoqué en France par la dissolution de l'Assemblée nationale continue de provoquer des secousses jeudi à 17 jours des législatives qui pourraient affecter notamment le cap diplomatique du pays. Depuis le triomphe électoral de l'Assemblée nationale, la recomposition politique s'accélère à grands pas en France, virant parfois au chaos. Malgré ces incertitudes, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit convaincu aujourd'hui que la France restera un allié solide et important, quel que soit son prochain gouvernement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des assaillants non identifiés au Niger ont attaqué mercredi des soldats gardant un important oléoduc Niger-Bénin, tuant 6 soldats, davantage avec Alexandrine Ollognon.
L'attaque contre la patrouille chargée de protéger l'oléoduc a eu lieu entre les villages de Salkam et Tibiri dans la région de Dosso, au sud-est du Niger, mercredi après-midi, d'après des sources sécuritaires. Le bilan fait état de 6 soldats tués et l'oléoduc n'a pas été endommagé. Personne n'a encore revendiqué cette attaque, qui est la première à viser les forces de sécurité protégeant l'oléoduc. L'armée du Niger a annoncé récemment la création d'une force de protection des sites stratégiques, notamment les mines d'uranium dans le nord et les puits pétroliers dans le nord du pays, avec un accent particulier sur le pipeline de près de 2000 km qui achemine l'or noir jusqu'au port béninois de Sémé, où le pétrole brut est chargé pour l'exportation. D'ailleurs, mercredi, une équipe de la société pétrolière chinoise WAPCO Niger, West African Pipeline Company, en mission de supervision des contrôles de chargement de pétrole dans le port de Sémé-Koudji, a été arrêtée par les autorités béninoises.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 42 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Beni, attribuée à des rebelles affiliés au groupe État islamique, selon un bilan révisé à la hausse par le colonel Alain Kiwewa Mitela, administrateur du territoire de Lubero. Un premier bilan avait fait état de plus de 25 morts. Au Rwanda, le président Paul Kagame a remanié son gouvernement avec des changements aux affaires étrangères, aux finances et à l'intérieur. Il a aussi nommé un nouveau chef du renseignement militaire à un mois de l'élection présidentielle. Nani Talani.
Vincent Biruta prend la tête du ministère de l'Intérieur et Olivier Ndungirehe, ancien ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas, le remplace au poste de ministre des Affaires étrangères, selon un communiqué du Premier ministre Edouard Ngirinté. Des remaniements ont également eu lieu pour les ministères des Finances et de l'Environnement. Paul Kagame a par ailleurs nommé Aimable Avugiraïemie à la tête des services nationaux de renseignement militaire, une première pour un civil. Les élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu le 15 juillet. Selon une liste provisoire publiée par la Commission nationale électorale, 2 candidats ont été autorisés à se présenter face à Paul Kagame, 66 ans. M. Kagame a été réélu en 2003, 2010 et 2015, à chaque fois avec plus de 90% des voix. Son score a culminé à 98,63% il y a 7 ans.
Le nouveau gouvernement sénégalais a annoncé aujourd'hui des mesures de baisse des prix des produits de consommation courante, dont le riz, l'huile et le pain, en réponse à la cherté de la vie dans le pays, lors d'une conférence de presse à Dakar. Ces mesures étaient largement attendues par la population, régulièrement citées comme étant une priorité par les médias et dans les échanges sur les réseaux sociaux. Les Comores ont lancé ce jeudi une campagne de vaccination contre le choléra quatre mois après une épidémie qui a tué 134 personnes, plus de 1300 enfants ont reçu une dose orale de vaccin le premier jour de la campagne à Anjouan, l'île la plus touchée et la plus proche du territoire français d'outre-mer de Mayotte, qui a enregistré deux décès depuis le mois de mars. L'épidémie de choléra serait arrivée aux Comores en février par bateau en provenance de Tanzanie sur le continent africain où la maladie est endémique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
L'artiste congolais Gandhi Djuna, plus connu sous le nom de Maître Gims, a lancé un projet immobilier de luxe dans la station balnéaire marocaine de Marrakech pour un investissement de 108 millions de dollars selon une information du magazine Forbes relayée par l'agence Ecofin. Baptisé Sunset Village Private Residence, ce projet porte sur la construction de 118 villas de luxe de 470 mètres carrés de surface habitable chacune sur une superficie totale d'environ 13 hectares. La valeur d'une villa est estimée entre 543 millions et plus d'un milliard de dollars.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Lionel Messi confirme qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris.
Tout à fait, la superstar argentine a confirmé dans un entretien à la chaîne américaine ESPN qu'il ne tenterait pas de remporter une deuxième médaille d'or avec la sélection argentine de football aux Jeux Olympiques de Paris cet été. J'ai parlé avec le sélectionneur des espoirs argentins, Javier Mascherano, et nous sommes tout de suite tombés d'accord sur la situation, a-t-il déclaré dans cet entretien diffusé mercredi. Lionel Messi faisait partie de l'équipe d'Argentine, sacrée championne olympique en 2008.
Euro 2024, l'Allemagne veut se mettre sur orbite avec son match d'ouverture contre l'Écosse.
Quadruple championne du monde et triple championne d'Europe, l'Allemagne veut se mettre sur orbite pour son Euro 2024 à domicile demain vendredi à Munich à 21h contre l'Écosse, afin de faire oublier ses trois échecs consécutifs cuisants depuis 2018 et retrouver son lustre de la décennie 2006-2016. L'arrivée fin septembre d'Julian Nagelsmann débarquait quelques mois plus tôt à la surprise générale par le Bayern Munich a redonné du souffle à la Mannschaft. À 34 ans, Toni Kroos va vivre son dernier mois comme footballeur avec le maillot allemand en quête du seul trophée qui manque à son immense carrière.
Les Pays-Bas seront difficiles à battre, prévient De Ligt.
Les Pays-Bas affrontent dimanche la Pologne avant de se mesurer aux Bleus. En phase de groupe, nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent dans des clubs européens de premier plan. Je pense que nous sommes difficiles à battre, a prévenu le défenseur central du Bayern Munich, Matthijs de Ligt, ce jeudi. La sélection désormais sous la houlette de Ronald Koeman a fait le plein de confiance juste avant le tournoi en surclassant le Canada et l'Islande sur le même score de 4-0 en match de préparation. Les Oranges, outre la Pologne et la France, affronteront l'Autriche dans le groupe D.
En Allemagne, après une finale de Ligue des Champions, Terzic arrête l'aventure avec Dortmund.
Malgré une finale de la Ligue des Champions, la troisième dans l'histoire du club, Edin Terzic a décidé ce jeudi de mettre fin à son aventure avec le Borussia Dortmund après plus de 10 années passées à tous les égards du club. Terzic précise dans un communiqué qu'il a eu le sentiment qu'un renouveau pour le club devait se faire avec une nouvelle personne sur le banc d'entraîneur, lui qui a passé plus de 10 ans à Dortmund.
Le club anglais de West Ham embauche l'espoir brésilien Guilherme.
Le jeune latéral brésilien de Palmeiras, Luis Guilherme, s'est engagé pour 5 ans avec West Ham, a annoncé ce jeudi le club anglais. Le joueur âgé de 18 ans signera son contrat le 1er juillet, date de l'ouverture officielle du marché des transferts en Angleterre. Le club londonien aurait déboursé 32 millions d'euros selon les médias pour s'acheter les services de l'international U20. West Ham, 9e de la saison 2023-2024, a annoncé fin mai l'arrivée de l'Espagnol Rolén Lopetegui pour succéder à Davis Moyes au poste d'entraîneur à partir du 1er juillet.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, l'arrivée d'un nouveau régime n'a pas changé les rapports conflictuels entre la presse et le pouvoir. La convocation par la police de deux journalistes et les menaces du Premier ministre contre les médias ont ravivé les tensions ces dernières semaines. Mais pourquoi les relations entre presse et pouvoir sont-elles si difficiles? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant, Wani Johnson Sambou.
Entre le pouvoir et la presse sénégalaise, c'est l'histoire d'un désamour qui résiste au temps. Il y a deux semaines, le directeur de publication du journal Le Quotidien a été convoqué par la police après la publication d'un article. Pour Bokar Saho, le coordonnateur de la rédaction, les récentes menaces du Premier ministre contre la presse lors d'un meeting passent forcément mal.
Pas acceptable, je trouve, dans ce contexte de meeting devant des milliers de jeunes, c'est la liberté de jeter les médias en pâture. On est tous d'accord qu'il y a des soucis, mais ce n'est pas à ce discours menaçant, ce n'est pas ce discours qui voudrait montrer qu'on veut museler les médias qui va régler la situation.
La menace sur la liberté de presse, l'arme par excellence des journalistes face au pouvoir. Pourtant, les professionnels reconnaissent que les médias sont loin d'être irréprochables. Mais malgré l'existence d'organes de régulation et d'un tribunal des pairs, ils semblent désarmés face à la porosité des frontières de leur métier. Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal.
Le contrôle aussi, c'est nous tous qui devons le faire, parce que le corps n'est pas partout. Et je dis souvent aux professionnels de médias qui sont sur le terrain, quand vous remarquez des gens qui sont des usurpateurs, n'hésitez pas à les désigner du droit et à faire les remonter au niveau de la commission ou au niveau du correct. Et on prendra les mesures qu'il faut.
Et parmi ces mesures, le refus d'accès à la carte de presse ou son retrait, des sanctions loin d'être cependant dissuasives. Le code de la presse voté en 2017 aurait pourtant pu permettre de lever les obstacles à l'assainissement du métier. Pour le chroniqueur judiciaire d'Audamine, il urge donc de passer à l'acte.
Il va falloir que l'assainissement, tant chanté, tant voulu par les professionnels, qu'on essaye de faire en sorte que cet assainissement-là puisse se traduire en acte concret. À partir de ce moment-là, nous allons nous rendre compte que nous avons une meilleure presse, une presse plus responsable. Et à partir de ce moment-là, même ces histoires de dépénalisation des délits de presse, on n'en aura plus besoin.
Des mesures encore plus fortes, c'est ce que réclament les acteurs des médias sénégalais pour mettre de l'ordre dans leur métier et peut-être apaiser leurs relations avec le pouvoir. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Des artistes du Niger et du Bénin ont récemment pris position face à la détérioration des relations entre leurs deux pays, exprimant un appel à l'apaisement. Ils ont uni leur voix en chantant pour promouvoir l'unité et la paix entre ces deux voisins. Abdul Razak Idrissa, notre correspondant au Niger, a interviewé l'un des artistes sur leur initiative.
C'est quelques jours après son retour de Parakou au Bénin, où la chanson a été enregistrée, qu'Aziz Tony nous reçoit dans son studio à Niamey pour nous parler du projet de cette chanson.
Cette idée, elle est venue de Borosman, qui est au Bénin, qui est le président des artistes du Septentrion du Bénin. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, on est des artistes, on doit jouer notre rôle d'artiste.
Aziz Tony approuve l'idée et y associe deux autres artistes nigériens. Ensemble, ils décident de se rendre au Bénin pour l'enregistrement, sauf que la frontière entre les deux pays est fermée.
On a pris un vol par le Burkina, on est parti passer par Cotonou, on est rentré à Parakou. C'est à côté, c'est plus proche de passer par Gaïa, par Malanville et se rendre à Parakou, c'est plus proche. Mais bon voilà, comme ça s'imposait, on a dû faire le détour et pour s'y rendre quoi, parce qu'il fallait coûte que coûte faire ce son pour appeler vraiment à la paix, à la calmer.
Le son et le clip sont produits et diffusés. En quelques jours, ils cartonnent sur les plateformes de diffusion et sur les réseaux sociaux.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce son et c'est vraiment un acte très salutaire.
Ce que j'ai beaucoup aimé, ils ont utilisé nos langues nationales. Ça montre combien de fois on est unis.
C'est vraiment une bonne idée pour que les dirigeants puissent prendre conscience à travers les paroles.
Un succès et des retours positifs qui ont surpris les initiateurs même de la chanson.
Ce projet, je ne l'ai pas imaginé sur la posture sur laquelle il est. En fait, les retours qu'on a, c'est de partout, la sous-région, jusqu'à l'Europe. J'ai des retours énormes par rapport à ce son. Et en fait, les gens ne cessent de dire « Ah, il fallait y penser. Ah, il fallait y penser. Ah, l'initiative, elle est salutaire. Ah, vous avez bien fait. » Je dis dedans, il est temps qu'on vienne s'asseoir, qu'on se parle entre nous, qu'on mette de l'eau dans nos vins pour l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça le message de mon couplet.
Les autorités militaires nigériennes gardent toujours la frontière fermée pour des raisons, disent-elles, de sécurité. Depuis le 5 juin, 5 Nigériens travaillant pour la société en charge du pipeline pétrolier devant acheminer le brut au port de Sémé sont détenus par les services béninois de sécurité. Niamey parle de kidnapping. Ces artistes espèrent que leur appel sera entendu. Abdel Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Nil, qui traverse 11 pays africains, contribue à faire vivre directement ou indirectement plus de 200 millions de personnes. Cependant, l'activité humaine pose un risque important pour l'écosystème fragile du plus long fleuve d'Afrique, menaçant la sécurité alimentaire de tous les habitants qui en dépendent. Sheila Pony nous propose ce reportage depuis Bor, dans l'état de Jonglei, au Soudan du Sud. Le récit est de Jacques Aristide.
Louette Reng-Louette, directeur exécutif de l'Action communautaire contre les déchets plastiques au Soudan du Sud, affirme que le Nil est aujourd'hui confronté à un important défi environnemental. Le fleuve crie au secours, étouffé par les mains, même qu'il nourrit. Nous sommes venus à sa rescousse. Nous sommes ici aujourd'hui pour changer les habitudes, pour mettre en place des solutions durables pour notre peuple. L'ONG, fondée par Louette lui-même, est dirigée par des jeunes.
Le Nil saigne. Il ne s'agit pas de sang, mais de plastique et des déchets qui étouffent ses eaux. Notre ville, notre fleuve et notre avenir sont tous interconnectés. La situation ici à Bor est désastreuse et il est de notre devoir d'agir.
Des experts environnementaux sont d'avis que des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses réduiront le débit du Nil de 75%, ce qui accentuerait selon eux l'insécurité alimentaire et les conflits autour des ressources en eau et pourrait également accroître les dangers sanitaires. Joseph Africano Bartel, sous-secrétaire du ministère sud-soudanais de l'environnement et de la gestion forestière, explique l'importance que revêt la qualité de l'eau pour tous ceux qui vivent et travaillent près des rives du Nil.
Les gens boivent l'eau directement du Nil ou des cours d'eau, ce qui provoque le choléra, la diarrhée et d'autres maladies d'origine hydrique. Ainsi, la seule solution pour améliorer la qualité de l'eau au Soudan du Sud est de mettre en place une gestion des déchets liquides, solides et médicaux.
Louette croit qu'un bon début serait pour le gouvernement de tenir des ateliers sur la gestion efficace des déchets, de mettre en œuvre des politiques qui découragent l'usage unique du plastique et de fournir des camions pour collecter régulièrement les déchets des personnes qui vivent au bord du fleuve, comme Elijah Mao, un adolescent.
La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nettoyer les rives du fleuve. C'est notre bouée de sauvetage. C'est pour nous protéger des maladies. Ouais.
L'action communautaire contre les déchets plastiques appelle à la collecte régulière des déchets et à l'imposition de taxes sur le plastique et d'amendes pour déversement sauvage d'ordures afin de protéger l'environnement. Mais pour l'heure, ces changements ne sont pas à l'agenda du gouvernement.
En tant que pays, nous nous sommes associés au programme des Nations Unies pour l'environnement. Grâce au comité de négociation intergouvernemental, nous devons parvenir à un traité qui devra interdire la pollution plastique à l'échelle mondiale.
Pour l'UET, la ville de Bor et le Nil sont à la croisée des chemins. La voie à emprunter, dit-il, déterminera si le fleuve continuera à soutenir la vie ou deviendra une relique du passé.
Une flotte de navires de guerre russes et un sous-marin nucléaire ont accosté à La Havane pour des exercices militaires. Bien que déclarée non menaçante par les États-Unis et Cuba, cette escale est vue comme une démonstration de force russe sur fond de tensions accrues avec l'Ukraine. Quelle est la signification stratégique de cette présence russe à Cuba? Eric Manirakiza, agent à Paris, Sergei Genov, ancien agent du KGB, service de renseignement russe, de l'époque de l'Union soviétique.
À mon avis, signification stratégique, il n'y en a aucune, mais il y a une signification symbolique. En fait, Poutine joue sur les peurs de l'Occident par rapport à la question des armes nucléaires et envoyer des navires russes de guerre à Cuba, ça rappelle la fameuse crise des Caraïbes de 1962 entre le président Kennedy et le secrétaire général du Parti communiste de l'époque, Khrouchtchev. Et à mon avis, Poutine l'a fait uniquement dans ce but. C'est-à-dire qu'il veut raviver chez les Américains, principalement, parce que cette menace vise l'opinion publique aux États-Unis pendant la campagne présidentielle qui se passe actuellement dans votre pays. Et donc, pour jouer sur les peurs de l'opinion publique, pour lui dire que, voilà, les dirigeants actuels poussent nos deux pays, les États-Unis et la Russie, vers la même crise nucléaire qu'on a vécue en 1962 et où le monde est passé à deux doigts de la guerre nucléaire mondiale. Voilà, c'est uniquement ça, parce que, si vous voulez, ces navires-là, au niveau militaire, ça représente absolument rien. Le sous-marin nucléaire qui a été envoyé, c'est un sous-marin de propulsion nucléaire, mais la Russie a bien précisé qu'il ne comporte aucune arme nucléaire à son bord. Et en plus, ce sous-marin est arrivé d'une manière tout à fait visible. Et donc, stratégiquement, un sous-marin qui n'est pas caché au fond des mers ne représente aucun danger. Parce qu'il est repéré, et donc, bien évidemment, il est suivi. Et si jamais il représentait le moindre problème, les États-Unis possèdent suffisamment d'armes pour le détruire à leur guise quand ils veulent. Et puis, le navire militaire qui a été envoyé à Cuba, c'est un vieux navire de guerre qui est même quasiment ridicule parce que c'est un navire diesel. Quand il se déplace, on voit sa fumée à 50 miles autour de lui, même à plus que ça en mer. Et déjà, quand il est allé il y a quelques années en Méditerranée, il a fait la risée du monde entier. Et puis, les Ukrainiens ont prouvé que les navires comme ça, ils peuvent être abattus par un seul missile et qu'ils n'en présentent aucun danger, parce qu'ils ont abattu le navire Moskva, qui était le navire amiral dans la mer Noire. Et donc tout ça, ce n'est que du théâtre. C'est du théâtre politique, c'est du théâtre géopolitique pour effrayer l'opinion publique américaine, principalement pendant les élections actuelles. Voilà, c'est tout.
Comment cette démonstration de force russe pourrait-elle influencer les relations entre les États-Unis et Cuba, ainsi que la dynamique géopolitique dans la région des Caraïbes?
Pour les États-Unis, ça ne change absolument rien. Ça peut changer beaucoup de choses pour le Cuba, parce que Cuba pensait que, enfin, on pensait que Cuba avait compris que c'était un pays absolument à l'impasse économique, qui n'arrive pas à se développer, et que la seule façon pour lui de sortir, c'est de changer d'attitude, d'oublier le du communisme et de commencer la vie entre guillemets normale, y compris avec le tourisme américain ou canadien ou pour gagner de l'argent. Et ben apparemment les Cubains n'ont toujours rien compris, donc ils préfèrent vivre dans la misère, mais avec quelques idées un peu farfelues, en pensant que la Russie va les aider.
Sergueï Zhirinov, ancien agent du KGB, service de renseignement russe de l'ex-Union soviétique. La totalité de cet entretien est disponible sur notre site internet voafrique.com. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.